son appétit de lion.
Cherche le problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
La voie dérobée, le coin de cloison est prêché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîtes noires et caisses d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le fort accord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublon, canoncier dans le double fond. Le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits camouflage. Le trompe-l'œil.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, Eric?
Fort bien, et toi?
Eh oui, c'est l'émission Angle Mort de retour après deux semaines de relâche. Voilà. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à assurer les dernières émissions. Il faut aussi rappeler que cette radio, pour qui s'interroge et se dit « Mais bon sang, ils exagèrent, ils sont quand même payés pour ça », que non.
Eh ben non.
Nous ne sommes pas payés. Et que la radio...
Et qu'on veut
radio,
pas l'être.
Et non. Et que Radio Canu ne fonctionne qu'avec la volonté farouche des animatrices et des animateurs des émissions qui assurent jusqu'au ménage des locaux. Voilà. Donc, c'est donc l'émission Angle Mort qui commence. On est avec vous de 21h à 22h, comme tous les dimanches, ou presque.
Presque.
Voilà. Et ce soir, Eric, tu as prévu d'évoquer un texte que tu as récemment lu, que tu vas nous présenter maintenant.
C'est ça, oui, c'est un texte donc qui date d'une dizaine d'années maintenant à peu près, un article qui a été publié dans une revue qui s'appelle Sociologie du travail, et qui porte sur les conditions d'emploi et de travail des femmes de chambre. Donc on va parler un peu de ça. Ce sera le fil rouge de l'émission, puis on va passer un peu de musique aussi, de temps en temps, des pauses musicales.
Est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite par une petite intermède musicale?
Carrément.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Radio Canu, Angle Mort, sur le 102.2.
when you drive that funky soul. Breathe up, get yourself together, and drive your funky soul. Slaughter, get on up, get yourself together, drive that funky soul. Leo, get yourself together, and drive your funky soul. Aquarius, get yourself together, and drive that funky soul.
Toujours l'émission Angle Mort. On vient de s'écouter, alors que je retrouve le petit papier, James Brown, dans l'ordre, enfin c'était le premier, puis pour la chanson People Get Up and Drive Your Fun. Et ensuite on a entendu The Taxpayers, There Is Trouble.
Et on enchaîne donc avec la présentation de cet article d'Isabelle Puech. Le temps du remue-ménage, conditions d'emploi et de travail des femmes de chambre, qui est paru en 2004 dans une revue qui s'appelle Sociologie du travail, c'est le numéro 46. Une revue qui est un petit peu difficile à se reprocurer librement sur Internet. Mais on peut, je pense, trouver d'autres articles du même auteur qui disent peu ou prou les mêmes choses. Voilà. Donc c'est un article de sociologie du travail, donc, qui porte sur les conditions de travail et d'emploi de femmes travaillant à temps partiel dans le secteur du nettoyage et dans un statut particulier ou dans un cadre particulier, puisque c'est celui de la sous-traitance. Donc cet article, on peut avoir plusieurs modes de lecture. Le premier, le principal, celui qui est privilégié par l'auteur, concerne ici la précarisation du travail. L'article, en effet, traite principalement du travail à temps partiel et de la sous-traitance, et montre comment c'est un mécanisme de stratification des emplois et des travailleurs, un mécanisme de hiérarchisation entre hommes et femmes notamment, puisque ce sont surtout les femmes qui occupent les postes à temps partiel, mais aussi de hiérarchisation entre les femmes elles-mêmes, puisque dans l'article, dans l'enquête, ça porte sur un terrain où il y a des femmes qui sont à temps plein et des femmes qui sont à temps partiel. Donc ça produit aussi des inégalités entre femmes elles-mêmes. À côté de ça, on a d'autres principes de lecture de cet article qui peuvent cohabiter. On peut y voir du coup un travail aussi plus spécifiquement donc sur les inégalités hommes-femmes au travail, ou encore une étude de cas sur les conditions, on va dire, de mobilisation collective de groupes sans qu'on va présenter souvent comme sans ressources politiques et sociales. Et effectivement, il y a toute une tradition de sciences politiques qui va analyser qu'est-ce qui va amener certains groupes à se mobiliser plutôt que d'autres et montrer que il y a certaines ressources qui vont être utiles dans les processus de mobilisation et à l'inverse, quand les questions de personnes dont le travail est précaire, qui sont dominées, etc., ils ont moins de ressources pour se mobiliser. Donc là, il y a aussi ce principe de lecture, qu'est-ce qui fait que des groupes précaires, dominés, etc., sont amenés à se mobiliser. Bon, ici moi je vais exposer en fait le texte en le suivant de près dans ses parties et sous-parties successives parce qu'il me semble effectivement très intéressant et nous permettre de nous plonger dans ce qu'est les conditions donc, de travail des femmes de chambre et une bonne plongée dans la question de la précarité. Et donc l'introduction rappelle que le travail à temps partiel s'est développé à partir des années 1980. À l'époque, souvent sous couvert de répondre à une demande sociale entre guillemets des femmes, c'est-à-dire qu'on voulait s'ajuster à bon, les femmes elles veulent travailler, mais en même temps elles peuvent pas forcément travailler à temps complet, etc. Il y avait souvent ce discours. En réalité, ce développement répondait surtout à la volonté des pouvoirs publics et des employeurs, puisque le travail à temps partiel permettait aux entreprises de s'adapter aux contraintes du marché, de flexibiliser la main d'œuvre. Voilà. Donc c'est une forme d'emploi par contre qui est effectivement féminisée à 80% et qui contribue à produire souvent des situations de travail et de vie extrêmement précaires. Alors précision tout de suite, toute forme de travail à temps partiel n'est pas nécessairement synonyme de précarisation salariale. Mais c'est le plus souvent le cas pour les catégories de salariés, on va dire les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, les immigrants, etc. Ceux qui occupent les postes les plus difficiles ou ingrats, comme c'est le cas ici, puisqu'on parle du secteur du nettoyage, qui est un secteur concurrentiel dans lequel le travail à temps partiel et la sous-traitance sont des formes de précarisation des travailleurs, qui répondent ici entièrement à la volonté des entreprises, on va dire, d'exporter les contraintes de la variation de l'activité sur les salariés, c'est-à-dire que c'est eux qui vont devoir supporter ces variations d'activité qui sont très fortes dans le domaine du nettoyage et notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Donc exporter ces contraintes à travers une flexibilité imposée du temps de travail et du niveau des rémunérations aux travailleurs. Voilà, donc l'article s'arrête dans un premier temps sur les conditions peu reluisantes d'exercice de l'activité de nettoyage. Donc il rappelle que pour la plupart des salariés du nettoyage, le travail qui déjà en lui-même présente il est vrai, peu d'intérêt, consiste en plus en une série de gestes et d'opérations très répétitives, imposant souvent une longue station debout et des postures pénibles, des déplacements à pied qui peuvent être longs et ou fréquents, impose aussi souvent le port de charges lourdes, et tout ça dans un environnement qu'on va qualifier de difficile, c'est-à-dire qu'il y a la saleté, il y a la poussière, etc. La main-d'œuvre concernée dans ce secteur est souvent d'origine étrangère, sans diplôme ni qualification, très faiblement rémunérée, et ce sont des personnes qui connaissent souvent des situations familiales, on va dire, difficiles ou qui peuvent être génératrices de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a souvent des familles monoparentales ou à l'inverse des familles nombreuses. Et donc voilà, familles monoparentales et familles nombreuses sont surreprésentées parmi les travailleurs de ce secteur du nettoyage. Et notons aussi que les salariés dans ce domaine sont pour leur grande majorité soumis à des horaires décalés, c'est-à-dire soit ils vont travailler tôt le matin, soit tard le soir, parfois la nuit, horaires décalés qui bien sûr compliquent encore plus la gestion de la vie familiale, notamment pour les femmes. Donc pour l'employeur, l'intérêt d'employer ses salariés sans expérience ni qualification s'inscrit bien sûr dans une politique générale de compression maximale des coûts, d'où aussi du coup le recours à la sous-traitance depuis les années 80, qui s'est développé depuis les années 80, et au temps partiel, qui sont donc des instruments privilégiés ici de réduction, de compression maximale des coûts et de flexibilité. En 2002, on estimait entre 44% et 70% de salariés dans le secteur du nettoyage qui travaillaient à temps partiel. Bon, il y a un grand écart entre 44% et 70%, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Et justement, ce décalage renvoie au fait que les salariés du secteur occupent souvent plusieurs emplois. Par exemple, souvent, ils vont être ils vont travailler dans un hôtel en début de journée, et puis après, ils vont travailler dans des bureaux le soir, enfin, nettoyage du bureau le soir. Du coup, lorsqu'on va demander s'ils sont à temps partiel, ces personnes vont souvent avoir tendance à répondre non, puisque en fait, ils travaillent tout le temps. Mais donc, c'est ce qui fait que pour un chiffre, c'est 44%, parce que ça, c'est le chiffre par autodéclaration. Alors que quand on va demander aux employeurs de déclarer combien sont à temps partiel, là, on a 70%. Ce qui est sans doute beaucoup plus proche du chiffre réel. Voilà. Donc, dans ce domaine, on observe aussi des inégalités fortes entre hommes et femmes. C'est-à-dire que déjà, notons que les femmes sont surreprésentées dans le secteur du nettoyage, mais de plus, donc un secteur qu'on a vu difficile, mais de plus, on y observe une division sexuée du temps, de l'espace et des tâches. Donc, division sexuée du temps d'abord, c'est-à-dire que les femmes sont 4 fois plus nombreuses que leurs homologues masculins à travailler à temps partiel. Division de l'espace, c'est-à-dire que femmes et hommes dans ce secteur-là vont pas occuper les mêmes espaces. C'est-à-dire que les lieux extérieurs type jardin ou dans une moindre mesure les parties communes des bâtiments vont plutôt être le lieu où vont travailler les hommes. À l'inverse, les femmes vont être reléguées le plus souvent dans les espaces privés et cachés entre guillemets, c'est-à-dire les chambres et les toilettes. Et donc je disais division sexuée du temps, de l'espace et des tâches, et oui, division des tâches parce que ça renvoie à une partition des tâches et des outils de travail. C'est-à-dire que pour les hommes, souvent va revenir le recours aux machines automatisées. Pour les femmes, à l'inverse, va échoir les tâches les moins qualifiées, les plus répétitives et les moins mécanisées. Donc on trouve aussi ici du coup un phénomène qu'on observe dans d'autres secteurs. Quand on travaille sur les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, souvent ce qu'on se rend compte c'est que le travail des femmes va s'inscrire dans le prolongement de leur activité domestique. Du coup, les compétences requises pour travailler, là en l'occurrence dans le nettoyage, voilà, font appel à des savoir-faire qu'ont acquis les femmes dans la sphère domestique. Je vais essayer de leur dire mieux. C'est-à-dire qu'ici, les compétences requises pour travailler dans le nettoyage font appel à des savoir-faire acquis par les femmes dans la sphère domestique. Donc du coup, elles sont plus difficilement reconnaissables comme qualifications professionnelles, méritant du coup salaire conséquent. Donc c'est souvent, voilà, un des obstacles pour obtenir un meilleur traitement, un meilleur statut, c'est que oui, mais en même temps, voilà, ce que vous faites, c'est pas vraiment un travail, c'est déjà ce que vous faites à la maison. Voilà, bon, je dis, c'est pas notre discours ici, hein, mais c'est un mécanisme qui joue. Et aussi, qui pose un autre problème, c'est que nombre de problèmes de santé des travailleuses ne vont pas être reconnues comme maladies professionnelles, ou plus, beaucoup plus difficilement reconnues comme maladies professionnelles, comme les troubles musculo-squelettiques, les maladies de la peau liées aux produits d'entretien. Très difficile de faire reconnaître que c'est dans l'exercice même du travail qu'on a, voilà, et que c'était pas dans le cadre du ménage fait dans les activités domestiques. Voilà, donc on va faire une petite pause là, et puis on poursuit la présentation de cet article.
Un livre qui s'appelle « Les mécaniques racistes ».
Au cœur des poudrières,
je cherche
best trained, best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Fight the powers that be.
check this out, man.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Future of Public Enemy got a...
C'était donc Public Enemy sur Radio Canu, l'émission Angle Mort, et c'était la chanson Fight the Power.
Ouais, on est retombé dans les classiques voilà. Hip-hop du début des années 80.
Et on continue du coup, Eric, avec la présentation du texte, le temps du remue-ménage sur les conditions d'emploi et de travail de femmes de ménage, c'est ça, de femmes de chambre ?
Exactement, donc on a vu là comment c'était un secteur, le secteur du nettoyage, donc en hôtellerie, etc., qui était dans lequel les conditions de travail étaient peu reluisantes, hein, donc on a dit gestes répétitifs, postures pénibles, déplacements longs, port de charges lourdes, environnement difficile, etc. On a vu qui était plus directement concerné. On a vu aussi du coup que c'était un secteur très majoritairement féminin, dans lequel les femmes sont surreprésentées, et dans lequel on pouvait observer une division du temps, de l'espace et des tâches entre hommes et femmes. Voilà, donc on poursuit maintenant, en fait l'article poursuit en s'intéressant ensuite à la division entre femmes elles-mêmes dans le secteur du nettoyage. En montrant l'incidence en fait du coup du temps de travail et de la sous-traitance sur les conditions de travail. Donc ici l'article s'appuie en fait sur une enquête ethnographique menée par donc l'auteur de l'article, Isabelle Puech, portant donc cette enquête sur les femmes de chambre dans un grand groupe hôtelier. Donc pour replacer en fait une partie de ces femmes de chambre est employée directement par le groupe. Une autre à l'inverse, nettement plus nombreuse, est employée par une société de sous-traitance. Recours à la sous-traitance qui permet au groupe en fait de se décharger de la gestion des niveaux de variation d'activité. Des variations par exemple de niveau d'activité. Variations qui sont fortes dans le secteur hôtelier, parce qu'il y a des périodes de vacances, il y a des événements ponctuels, etc., qui fait que d'un jour sur l'autre, il peut y avoir beaucoup plus de fréquentation d'un hôtel ou pas. Donc c'est par la sous-traitance qu'on va gérer cette variation. Et c'est pourquoi, du coup, au sein de la société sous-traitante aussi, les contrats de travail sont quasi exclusivement à temps partiel. Alors, là, faut que je dis, c'est pourquoi, etc. Nous, bien sûr, on dénonce tout ça, faut le repréciser. C'est un lien logique dans ce dynamique néolibérale de maximiser les coûts du... bien sûr que nous, on dénonce ça. Donc, je disais, sous-traitance pour gérer des variations de niveau d'activité et du coup, recours très fort à des contrats de travail et à temps partiel. Et donc coexistent en pratique dans les étages de ce groupe hôtelier, qui je crois, parce que le nom est changé dans l'article, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est Accor ou quelque chose comme ça. Donc coexistent deux catégories de femmes de chambre. L'une est employée par le groupe hôtelier à temps complet en général, et l'autre est employée par la société sous-traitante. Et le plus souvent à temps partiel et sur des durées relativement courtes. Et donc pour celles-ci, ces dernières, celles qui sont dans la société sous-traitante et à temps partiel, le temps de travail est extensible et complètement non maîtrisable. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure on commence, mais jamais à quelle heure on va terminer. Parce que rien ne permet de prévoir à l'avance le nombre exact de clients. Or, si les travailleuses de la maison mère ont un nombre fixe de chambres à nettoyer en un laps de temps préalablement fixé, celles de la société sous-traitante adaptent leurs horaires en fonction du nombre de chambres à faire, donc qui varie d'un jour à l'autre. Ce qui fait que fréquemment, le temps de travail dépasse les 35 heures hebdomadaires. Bon, de manière générale, ce qui est une entorse au droit du travail, bien sûr. Et de manière générale, le droit du travail est bafoué à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que donc l'auteur évoque par exemple le cas d'une femme de chambre qui a dû signer un nouveau contrat de travail lors de son retour de congé maternité, ce qui du coup a fait qu'elle a perdu le bénéfice de son ancienneté, et ce qui est illégal. Elle évoque aussi d'autres qui vont travailler 27 jours d'affilée sans aucun jour de repos, etc. Donc on s'assoit facilement sur le droit du travail dans la société qui sous-traite. Sur le plan salarial aussi, le mécanisme de paiement est un mécanisme de paiement à la tâche qui va au profit exclusif de l'employeur. C'est-à-dire qu'en période de suractivité, le temps de travail supplémentaire aux 35 heures, d'après ce que j'ai compris, n'est pas rémunéré. À l'inverse, en période de faible occupation de l'hôtel, les femmes de chambre ne peuvent pas remplir un quota de chambre à nettoyer. Et donc qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont s'atteler à un travail plus minutieux qu'elles n'ont pas le temps de faire d'habitude. Mais bon, du coup, le nombre de chambres non nettoyées est converti en temps d'absence, et en fait, ça se traduit par une réduction de salaire. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une forte activité, on gagne pas plus, mais quand il y a une faible activité, on gagne moins. Et on gagne moins, ça va jusqu'à tiers, voire à la moitié du salaire, sachant que le salaire est un salaire qui dépasse rarement le SMIC. Hein. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas prévoir le niveau de salaire à la fin du mois. Donc c'est un salaire qui varie, je crois, en l'occurrence, on est en 2004, donc ça a peut-être changé un petit peu entre-temps, mais ça variait entre 275€ et 750€, en gros. C'est quand même relativement faible, surtout 275€ quand on attend 750, ça peut mettre un ménage dans de grosses difficultés, bien sûr. Donc, les raisons de l'acceptation, entre guillemets, au quotidien par les femmes de chambre de telles conditions de travail sont plutôt simples. Hein, renvoient d'abord à leur itinéraire personnel et familial, c'est-à-dire que c'est souvent des femmes d'origine sénégalaise, malienne, qui n'ont jamais travaillé auparavant. Qui sont illettrés, c'est d'ailleurs, explique l'auteur, une des conditions souvent de leur recrutement, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir lire le contrat de travail est, selon dans plusieurs entretiens, ça apparaît comme en fait un des principaux critères d'embauche. Parce que moi, on sait que c'est des personnes qui vont être malléables. Et donc, c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé auparavant, j'ai dit, sont illettrées, qui s'orientent vers le secteur du nettoyage, du coup, par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien le choix, et qui ne peuvent pas quitter ces emplois, parce que leur conjoint étant souvent aussi touché par la précarité. Alors souvent, c'est leur conjoint va travailler dans le même secteur, mais sur les postes masculins, donc qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent. Leur salaire est bien sûr primordial pour la famille. Donc, ce qui fait le lit de la peur du licenciement, des intimidations de l'employeur, etc. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que leur accès à l'emploi à ces femmes-là signifie souvent une amélioration de la situation par rapport à une situation antérieure. Accès à une première forme d'indépendance. Ce qui fait que là aussi, ça a tendance à retenir les femmes dans cette forme d'emploi. Au passage, les autres femmes qui, elles, sont pas employées par la société sous-traitante, mais par le groupe hôtelier, sont, par la multinationale hôtelière, en fait, sont plus souvent issues, elles, de vagues d'immigration moins récentes, portugaises, espagnoles, antillaises, sont plus âgées et libérées des charges familiales. Donc là aussi, ça contribue à renforcer les inégalités entre ces différentes femmes de chambre, parce qu'elles, elles sont libérées de certaines charges familiales. Bon, bref, l'article revient en fait pour finir sur un long mouvement de grève de ces femmes de chambre. Là, c'est assez intéressant. Ce qui dit bien aussi que même s'il y a des mécanismes de difficulté à se mobiliser qu'on vient de voir, c'est pas des mécanismes qui jouent tout le temps. Il y a des fois des mouvements, des mobilisations. Ici, mobilisation qui a été la conséquence, semble-t-il, d'un sentiment d'injustice croissant face aux inégalités de statut entre les deux groupes de femmes de chambre. Parce que justement, ici, on avait une situation particulière où ces inégalités pouvaient être perçues, puisque les deux groupes travaillaient quotidiennement au contact l'un de l'autre, ce qui était propice du coup à une prise de conscience de ces inégalités de traitement et de statut. Et donc, du point de vue des femmes qui subissaient une forte inégalité, donc à revendiquer un meilleur statut et une meilleure reconnaissance de leur travail. Autre condition, a priori, de ce mouvement de précaires, hein, c'est la forte présence syndicale dans le secteur du nettoyage. Ici, dans le cas concret, les femmes mobilisées ont pu avoir l'appui de Sud, du syndicat Sud, un appui notamment financier, ce qui leur a donc permis aussi de faire un mouvement dur sur la durée, parce que c'est une mobilisation qui aura duré un an. Notons aussi que la stratégie adoptée par les grévistes était intéressante, c'est-à-dire sur les débats qu'on peut avoir, est-ce qu'il faut médiatiser, etc. Ici, c'est vrai que dans la situation, la médiatisation était quand même un outil important, parce que c'était l'enjeu, c'était de ternir l'image du groupe hôtelier, de la maison mère, du donneur d'ordre, souligner sa responsabilité dans la situation en tant que donneur d'ordre, qui c'est bien lui qui, en cherchant le plus offrant, fait baisser les tarifs et impose ses conditions de travail. Donc, vu que c'était ça qu'il fallait faire, la médiatisation ici était quand même un outil important. ternir l'image, quoi. Le texte rappelle aussi que ces femmes de chambre se caractérisent par une détermination forte à se maintenir dans l'emploi ont en quelque sorte reconverti cette détermination à toute épreuve dans leur mobilisation et donc c'est dans une détermination à ne pas abandonner la grève. Donc je le disais, c'est un conflit qui a duré une année, même avec un soutien.
Ça force le respect.
Voilà, exactement. Donc au final, bon, les revendications en fait ont été partiellement satisfaites. C'est-à-dire que ce qui était demandé notamment, c'est le passage à temps complet. Ça n'a pas été obtenu. Par contre, ce qui a été obtenu, c'était une baisse des cadences, une augmentation du temps de travail et la réintégration des licenciés. L'auteur rappelle que malheureusement, le conflit a par contre fait apparaître de nouveaux clivages entre celles qui ont réussi à tenir la lutte jusqu'au bout et ont obtenu une forme de satisfaction, et les autres qui ont abandonné entre-temps, soit par crainte du licenciement, soit par nécessité financière, ou par découragement, etc. Donc celles-ci, elles, n'ont pas pu bénéficier de l'accord qui a été signé au final. Et de même, celles qui ont été embauchées entre-temps après la signature de l'accord ne sont pas concernées. C'est-à-dire qu'en fait, l'accord qui a été signé n'ont concerné que les grévistes. Donc du coup, ça a fait réapparaître aussi des clivages. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore trouvé, je crois, la parade. Alors, s'il y en a qui l'ont, il faut faire diffuser l'information. Mais comment trouver la parade face à la division qui va s'établir en général au cours de mouvements de lutte entre salariés. Et je pense que trouver la parade ici, c'est sans doute essentiel pour arriver à installer dans la durée un sentiment de solidarité à toute épreuve. Voilà donc pour ce texte, moi, qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, parce qu'il nous plonge vraiment dans les conséquences des transformations du travail depuis les années 80. Transformations du travail qui, bien sûr, ne sont pas des transformations liées, c'est pas un mécanisme naturel, etc. Enfin, il y a des décisions politiques derrière, d'accompagnement de tout ça, des décisions politiques qui ont souvent été prises par ce qui s'appelle entre guillemets la gauche de gouvernement.
Tu disais tout à l'heure que le développement du temps partiel date des années 80.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est sous Mitterrand, concrètement. Et c'était des transformations voulues par les pouvoirs publics, hein, et qui ont bénéficié aux seuls employeurs. Donc on va s'arrêter là. Moi, je voulais aussi faire mention d'un. Je le ferai après une petite pause musicale. Tiens, on va se lancer un titre et puis on reprend la parole tout de suite. Oh,
soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir. Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende mon trop d'identité. Bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare, et de quoi on me soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent? Quand je ne fais...
On ne sait pas combien de l'heure on fait. Nous, l'essentiel, on nous a donné des chambres, il faut finir les chambres, c'est ça.
Il y en a qui font 15 jours même de travail sans repos. On dit, on ne veut plus ça. Voilà, c'est ça qu'on a démarré la grève.
D'entendre. Alors, tu vas nous dire ce qu'on vient d'entendre, Eric. Et puis, juste avant que tu le dises, je vais dire ce qu'on a entendu avant. Voilà, c'est très clair. Non, on a entendu le groupe Blackbird Realm.
Yep.
Avec la chanson Germinal. Et puis, juste après, c'était.
Et donc, c'était la bande-annonce d'un film documentaire qui s'appelle Remue ménage dans la sous-traitance de Ivora Cusack, produit par le collectif 360 degrés même plus, qui est sorti en 2011. Et si je voulais mettre la bande-annonce, j'ai pas eu le temps de voir le film, hein, mais ça a l'air de traiter, si ce n'est directement, parce que je sais pas si c'est même pas exactement le même mouvement social en fait qui est en question, mais en tout cas qui traite de très près de ce dont il vient d'être question, donc à travers cet article de Isabelle Puech intitulé Le temps du remue-ménage, conditions d'emploi et de travail de femmes de chambre.
Alors Isabelle Puech qui est du coup, tu le disais tout à l'heure,
qui est sociologue, je sais plus exactement dans quel organe d'études, je crois que c'est le conseil d'études, bref, je sais
peu
plus,
importe.
Voilà, peu importe. C'est un article qui était paru en 2004 dans Sociologie du Travail, dont les points principaux, c'était d'une part rappeler les conditions de travail des salariés du nettoyage, d'autre part les divisions hommes-femmes qui ont lieu dans ce secteur-là, entre notamment des divisions qui passent par des divisions sexuées du temps, c'est-à-dire les femmes sont beaucoup plus souvent employées à temps partiel, ce qu'on dit subies, voilà. Comme une manière de gérer pour l'employeur les variations d'activité. Autre point important, c'était les effets que ça produisait, ce temps partiel, sur les femmes employées par une société de sous-traitance là, d'un grand groupe hôtelier. Tout ce qui se passe en termes de droits de travail bafoués, de conditions de rémunération ubuesques. On n'a pas beaucoup l'habitude de sortir le mot ubuesque.
C'est vrai.
Non, je voulais le souligner. Voilà, donc ça c'était les points. Et puis bien sûr, rappeler aussi que même s'il y a beaucoup de choses qui empêchent dans ces situations-là des mobilisations, des fois il y en a quand même, et elles peuvent être dures, elles peuvent être belles, et elles peuvent aboutir à des succès certes mitigés, mais non négligeables. Voilà, je crois que l'essentiel a été rappelé.
En tout cas, il y a, je sais plus, une expression qui dit quelque chose comme ce sont les batailles qu'on n'a pas menées qui sont perdues.
Exactement.
Quelque chose dans le genre, non?
Je la connaissais pas, mais oui.
Est-ce qu'on se passerait pas un dernier titre, peut-être avant-dernier? Tu proposais, Eric, de passer l'usine du pain.
Exactement.
C'est ça, ouais. Allez, c'est parti, Radio Kénu 102.2, c'est l'émission Angle Mort.
prêcher. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîtes noires et caisses d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le faux raccord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublure.
Et oui, donc on finit gentiment.
Mais oui.
Mais sûrement.
Mais sûrement.
Cette émission d'Angle Mort. Et puis, je sais pas, est-ce que, Eric, tu voudrais dire deux mots encore sur ce texte? Non, je pense pas.
Non, je crois que j'ai fait le tour.
Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'émission comme toutes les précédentes sur le blog. De l'émission Angle Mort qu'on retrouve via le site Radio Canu, et puis après il faut aller dans les blogs des émissions et puis après cliquer sur Angle Mort, tout ça, voilà. On va se quitter et puis laisser la place à la causerie d'ici quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être annoncer les prochaines émissions qui, si tout va bien, seront assurées. Sans doute qu'à la prochaine, on présentera un documentaire, quelque chose qu'on appelle un web documentaire. Je connaissais pas le titre, moi, enfin le mot, mais ça veut dire en gros un documentaire conçu pour le web, donc avec des liens interactifs, tout ça, voilà. Voilà, un web documentaire qui s'appelle Albert Romeo, Mon Arbre, et qui traite d'homoparentalité, d'identité plurielle, de la famille, d'une famille qui n'est pas forcément celle qu'on entend traditionnellement, mais une famille au sens large, de différentes manières de vivre sa famille, etc. Donc un documentaire qui m'a bien plu et que j'aimerais présenter la semaine prochaine. Sans doute nickel. Qu'on présentera aussi si c'est pas la prochaine émission, enfin si c'est pas l'émission d'après, ce sera sans doute celle d'après, on fera une émission spéciale sur France Télécom, les conditions de travail à France Télécom, avec un entretien avec un salarié de France Télécom, un salarié fonctionnaire, il en existe encore quelques-uns, mais ça ce sera dans 2 ou 3 semaines, voilà. Et puis pour l'heure, on va se quitter avec,
avec Brutus Daughters.
Ah voilà.
Et un titre dont j'ai oublié le nom, c'est pas très très. Ah si, c'est Breakdown Raoul, donc.
Rolls,
donc mettre à bas les rôles.
Voilà, je pense que c'est ça. Belle traduction, bravo Eric. On vous dit donc une bonne soirée, restez branchés à l'écoute de la causerie, et puis à bientôt.